Accent d'Europe, Juliette Rangeval.
Military solutions never work.
Bonjour, direction la Roumanie, près des rives de la mer Noire, à deux pas de la frontière avec l'Ukraine. C'est là que l'armée française a testé sa capacité à déployer un dispositif d'urgence de niveau brigade dans le cadre de l'OTAN. Pour les Français, cet exercice sous commandement roumain est une première du genre sur le front Est. C'est un reportage de Benjamin Ribou.
Donc ici, vous voyez, nous avons une section d'infanterie qui assure la protection du PC de la brigade interarmes.
Printemps nuageux et frisqué en périphérie de Medjidia, petite bourgade de la plaine de Dobroudja, perdue entre le Danube et la mer Noire. C'est ici, au 53e régiment d'infanterie roumain, que l'armée française, accompagnée d'autres nations de l'OTAN, vient répéter ses gammes pour cet exercice de grande ampleur. Devant nous, les tentes du commandement, le PC, abritent 200 militaires, principalement français. Au-delà, à moins de 500 mètres, le Battle Group. Haut degré de confidentialité et de sécurité oblige pour cet exercice d'Atchian Spring de 48 heures.
Je suis le capitaine Julien, je commande la 7e compagnie commandement et transmission.
Ouais, c'est un peu bruyant aujourd'hui.
Ce radar, en fait, il permet la localisation d'aéronefs et l'identification d'aéronefs, notamment d'aéronefs ennemis. Et si vous basculez de ce côté, vous allez voir un poste de tir anti-aérien. C'est du Mistral. Et effectivement, ça permet à ce poste-là de commander le tir pour assurer une bulle de sécurité 3D aérienne tout autour du poste de commandement et ainsi protéger l'état-major.
Dacian Spring a pour vocation à simuler, pour la première fois sous commandement roumain, la mise en place d'une brigade complète orchestrée par la France, nation cadre en Roumanie pour le compte de l'OTAN. Une brigade avec un état-major complet, commandant 4 groupes de combat, des battle groups, avec des soldats de nombreux pays. Simulation implique aussi phase d'arbitrage. Plus loin, les capitaines Guillaume et Blaise attendent justement les conclusions de l'une d'elles pour la poursuite de l'exercice.
Je suis le capitaine Guillaume et je commande l'escadron de Charles Leclerc du battle group 15-2. Moi ici, ce que je fais, c'est que je reçois un ordre de la part de mon commandant de bataillon. Je le décline pour savoir où est-ce que je mettrai mes chars dans la réalité. Et ensuite, la partie animation de l'exercice me fait remonter des événements à partir de ce que l'ennemi déclare faire. Et puis après, moi, je fais remonter les comptes rendus et enfin faire travailler les champs supérieurs.
Alors moi, je suis le capitaine Blaise et je commande la compagnie d'infanterie du Battle Group 15-2. Ce qui est intéressant, en fait, c'est de voir cet exercice dans la globalité de ce qu'on fait en Roumanie. Effectivement, là, actuellement, on fait un exercice simulé de grande ampleur, mais au-delà de ça, nous, on a un Battle Group complet qui travaille au quotidien à Sinkou et qui s'entraîne pour des situations de combat et de combat de haute intensité.
L'exercice d'Atchian Spring implique 65 militaires venus de France, mais aussi 177 militaires déjà déployés, eux, en Roumanie dans le cadre de la mission Aigle dont a parlé le capitaine Blaise. Une mission Aigle qui compte plus de 1000 soldats français dans le pays et s'inscrit dans la stratégie de défense de l'OTAN sur le flanc est de l'Europe depuis le déclenchement de la guerre chez le voisin ukrainien. Le lieutenant Théo, originaire de Normandie, fait partie de cette mission Aigle. À Medjidia, il assure la protection du commandement à l'entrée du camp. On le retrouve dans un VBCI, un véhicule blindé d'infanterie qui permet d'amener des soldats au plus près des combats.
Je suis lieutenant Théo, j'ai 27 ans, arrivé en Roumanie il y a 2 mois. Et là, pour l'exercice d'Atchian Spring, donc nous avons fait le déplacement pour venir ici pendant 2 semaines. Là, vous avez ce contact qui se fait avec les autres armées alliées et on sent qu'il y a une vraie cohésion interalliée. On le sent. Ces 2 premiers mois se sont bien déroulés, ils ont été intenses, parce que nous avons beaucoup de moyens à notre disposition, que ce soit en termes de véhicules, en termes d'armement. Ce qui sous-entend qu'on a beaucoup aussi de temps et de disponibilité pour nous entraîner. Le mandat dure entre 3 mois et demi et 4 mois, donc il y a une continuité de mission pour la mission Aigle. Donc nous, en permanence, on doit continuer à se tenir prêt. Donc c'est un jeu d'équilibré, ce qui est assez intense, comme je vous disais, en termes d'entraînement, en termes de quotidien. C'est ce qui permet aussi aux mecs de garder en tête qu'ils sont là pour être prêts si on doit être déclenché.
Le général Follet est lui le représentant du chef d'état-major des armées sur le théâtre roumain. Il est donc l'autorité militaire la plus gradée en Roumanie. Arrivé mi-novembre, son mandat de 6 mois s'achève. En ce moment, il se dit très satisfait du travail accompli en termes d'efficacité opérationnelle. De quoi rassurer les Roumains.
La perception ici de la
dangerosité de la menace est bien plus importante que celle qu'on peut avoir chez nous, en Europe occidentale. Donc ça, c'est quelque chose de très palpable. Ils sentent vraiment les Russes capables éventuellement de les envahir à court ou à moyen terme. Et ensuite, effectivement, le fait d'être inséré dans un dispositif OTAN, puisque la réaction face à l'attaque russe en Ukraine a été décidée au niveau de l'OTAN, est particulièrement importante aussi et structurante pour les Roumains. Et cette coopération avec les Français notamment, mais pas uniquement, les rassure complètement. Cet exercice-là constitue un premier jalon du passage du niveau bataillon au niveau brigade. Et pourquoi à l'Est ? Parce que parmi les hypothèses face à une aggravation de la situation, il y a ce déploiement vers l'Est qu'il faudrait opérer d'emblée en termes de premier échelon pour faire face à une pénétration russe.
La France ne prévoit pas pour le moment de déployer plus de 1500 soldats en Roumanie. C'est le plus gros contingent en Europe de l'Est. Les liens entre les deux pays sont anciens et forts, notamment au niveau militaire. Durant la Première Guerre mondiale, la mission Berthelot a marqué la Roumanie. Elle portait le nom du général français qui a réorganisé l'armée roumaine. Et cette mission a permis d'emporter d'importantes victoires face aux Allemands. Aujourd'hui, un village porte le nom du général dans le pays.
Une plongée dans les profondeurs de la police belge. Pendant plus de 5 ans, les journalistes Philippe Engels, cofondateur du magazine d'investigation Médor, et Thomas Holot ont enquêté pour écrire un livre, Sale flic, paru aux éditions Ken. Un livre qui dresse un constat accablant, celui d'une police en proie aux dérives racistes qui protège les bavures, une institution dans laquelle l'omerta a été érigée en règle de fonctionnement. Jean-Jacques Herry a interviewé les auteurs pour Accent d'Europe.
Philippe Engels, Thomas Holot, bonjour. Vous êtes tous les deux journalistes indépendants d'investigation. Pourquoi avez-vous voulu écrire ce livre, Sale flic ?
J'ai voulu écrire ce livre en voyant sur le terrain des policiers anti-corruption ou anti-terrorisme qui sont complètement désenchantés, qui se rendent compte de leur impuissance et qui au même moment pâtissent d'une image désagréable parce qu'il y a des bavures policières, des violences policières qui cette fois émergent alors qu'elles étaient cachées auparavant.
Puis ça s'est accentué après le début du Covid. Il y a eu une espèce de crispation sociale liée à une répression policière dans les rues mais aussi à des violences dans les quartiers. Là, j'ai commencé à couvrir, à filmer beaucoup la répression sociale. J'ai senti qu'il y avait une espèce de momentum. En tout cas, les jeunes générations bruxelloises et belges s'intéressaient beaucoup à ça, qu'il y avait beaucoup d'appréhension et de colère sur les questions policières. Puis, un beau jour, Philippe Engels, cofondateur de Médor, m'appelle, me dit « Est-ce que ça te dit d'écrire un livre ?» Et c'est comme ça que l'histoire a commencé, en gros.
Vous décrivez une police belge gangrénée par le racisme, par l'omerta. Vous revenez notamment sur la mort d'Adil, qui a marqué l'histoire récente de la Belgique. Les faits se sont déroulés le 10 avril 2020 à Anderlecht.
Alors, Adil, c'est un jeune de 19 ans qui habitait à Anderlecht, qui un jour a été contrôlé dans le cadre d'un contrôle Covid alors qu'il était en scooter. Il était avec un ami, il a voulu fuir ce contrôle. 10 minutes plus tard, il était percuté par une voiture banalisée de la police après une course-poursuite. Il y a énormément de zones d'ombre dans ce dossier.
Pour moi, Adil Charo, c'est le George Floyd des Belges. Après cette affaire-là, on constate que la population est sortie en rue et a dit « ça suffit, on veut la clarté sur ces faits-là ».
Le livre décrit donc des violences policières exercées par une police qui fait mal son travail car elle est très malade en interne et ça se caractérise par un manque d'encadrement. Vous prenez notamment l'exemple d'une zone de police de la capitale belge.
On décrit notamment la situation dans une zone de police qui est Bruxelles-Nord où on voit que, faute d'un bon management, les hommes de terrain sont complètement découragés. Les policiers arrivent sur la rue sans avoir de briefing. Ils reviennent au commissariat sans avoir de débriefing et donc souffrent d'un manque d'encadrement. Et quand on est mal encadré et qu'on intervient dans les quartiers où effectivement il y a des tensions, il y a une crispation grandissante entre la population et la police, eh bien c'est là que les bavures se commettent. Avec aussi, malheureusement pour cette zone, des cas de corruption, des suicides, des bavures, des lanceurs d'alerte qui sont licenciés un an après le fait qu'ils aient obtenu le statut de lanceur d'alerte. Donc cette zone de police-là est un condensé de toutes les difficultés de la police belge. Et je pense que les officiers et le top de la police est vraiment responsable de ça, par l'inaction, par le fait de ne pas intervenir sur les procédures, de ne pas sanctionner et de ne pas déclarer qu'il y a un problème. Toute difficulté est toujours mieux gérée quand il y a un acte de contrition, quand on indique qu'il y en a un souci et qu'on va s'y attaquer.
Le constat dressé est assez sombre, une répression qui augmente et des dérives toujours plus nombreuses. Quel espoir reste-t-il ?
On n'a pas l'impression qu'il y a une discussion, un débat qui se met en place sur quelle vision quelle police nous on a envie d'avoir en tant que société. Et donc je pense que c'est, nous, notre espoir avec ce livre, c'est d'essayer de faire réfléchir et de faire discuter sur quelle police on veut pour le futur.
Avant l'espoir, il faut la lucidité. Et la lucidité n'existe pas en Belgique actuellement sur ces faits-là, ni à l'interne, ni au sein du Parlement, ni au sein du gouvernement. J'ai l'impression que cette question du dysfonctionnement de la police ou des difficultés chroniques, structurelles et endémiques de la police n'est pas considérée comme un fait. L'état-major policier longe les murs, les officiers de police restent dans les bureaux et les agents de police sur le terrain souffrent ou frappent.
Sale flic, enquête dans les coulisses de la police belge par Philippe Engels et Thomas Olot, c'est aux éditions Ken. Merci Jean-Jacques Herry, à bientôt. En Irlande, l'allaitement reste un tabou. Des députés et des sénatrices viennent de lancer un appel pour introduire des cours sur l'allaitement dans les écoles. On estime que moins d'une femme sur trois allaite son nourrisson en quittant la maternité dans le pays. Et à 6 mois, ce chiffre tombe à 10%. C'est l'un des taux les plus bas au monde. Pour comparaison, après 1 an, on estime que près d'un quart des mères allaitent toujours en Allemagne et plus de la moitié au Brésil. C'est un reportage de Laura Taouchanoff.
Nous sommes dans un café du centre de Dublin. Il est 15h, la salle est plutôt vide. Confortablement installée sur un des fauteuils en cuir, Petrina allaite sa fille. C'est une scène qu'on ne voit pas souvent ici en Irlande.
L'allaitement, c'est comme tomber amoureux. Ça commence lentement, et puis plus vous le faites, plus vous avez envie de le faire, et plus vous avez envie d'en parler. Si c'était mon premier enfant, je serais hyper mal à l'aise à l'idée d'allaiter ici. Mais j'ai eu ma première fille à Londres, où c'est bien plus accepté dans la culture de le faire en public. Alors quand j'ai eu ma deuxième fille, je m'en fichais de ce que les gens pouvaient en dire ici. Ma famille n'aime pas ça. Certains ne me soutiennent pas dans ma démarche, mais c'est comme ça.
Et ils vous disent quoi, les gens, quand ils vous jugent comme ça ?
Pourquoi tu allaites ? Tu sais, si tu lui donnes un biberon de lait en poudre, elle fera ses nuits. Comment tu sais qu'elle a assez, puisque tu ne peux pas contrôler les quantités qu'elle mange ? Ça, on me le dit beaucoup. Une fois, j'allaitais par terre devant les toilettes dans un centre commercial parce qu'il n'y avait nulle part d'autre où aller et on m'a demandé d'aller m'isoler dans les toilettes. Donc on se cache encore derrière des portes fermées. Si on ne voit pas régulièrement des femmes le faire, ça ne va pas les encourager. Et quand vous êtes enceinte et que vous allez à la maternité pour vos rendez-vous, personne ne vous parle de l'allaitement. Il n'y a aucun soutien culturel en Irlande.
Ce rapport à l'allaitement s'explique aussi par un traumatisme post-famine. Au 19e siècle, près d'1 million d'Irlandais meurent de faim à cause d'un champignon qui détruit les cultures de pommes de terre. Cette peur de la faim et de la pauvreté est restée.
Pour la génération précédente, si vous aviez de l'argent, vous n'aviez pas besoin d'allaiter. Les mères qui allaitaient étaient perçues comme pauvres. Et dans les années 80, les entreprises laitières ont fait des campagnes de pub colossales. On disait aux mères que le lait en poudre était mieux que le lait maternel.
Dans la maternité de l'hôpital Rotunda, à Dublin, un médecin veut changer cette culture. On retrouve le pédiatre néonatal Afif El Koufache entre deux patientes. C'est l'un des rares consultants en lactation en Irlande.
Comparé au reste du monde, l'Irlande a malheureusement des taux d'allaitement très faibles. 40% des mères quittent l'hôpital en allaitant après l'accouchement. Ça descend à 10 ou 15% aux 6 mois de l'enfant. Donc il y a une baisse énorme. On leur parle du lait en poudre un peu trop tôt sans soutenir les mères. Mais la raison, c'est que nous n'avons pas assez de personnel. Les sages-femmes n'ont pas assez de bras pour leur consacrer du temps dans leur parcours d'allaitement. En Scandinavie, les taux sont très hauts. Je crois qu'ils dépassent 90%. Nous devons faire beaucoup plus. On n'enseigne pas la lactation aux étudiants en médecine et je pense que ça devrait devenir un module à part entière pour les externes et pour les internes. Je crois aussi qu'il faut davantage inclure les hommes dans la conversation pour que la société l'accepte mieux. Il faut défier ce tabou. L'option devrait être proposée si la mère le souhaite.
La pudeur dans la religion catholique n'y est pas pour rien non plus. Mais les choses commencent à changer au niveau politique. Grâce aux actions de l'association Bain Obeita, un groupe parlementaire entièrement dédié à l'allaitement vient d'être créé. Deborah Byrne est la porte-parole.
C'est le tout premier comité parlementaire sur l'allaitement, mais des gens travaillent sur le sujet depuis des années. On est en retard. Si vous décidez d'allaiter, que ça ne marche pas et que vous ne vous faites pas aider, vous pouvez vous sentir très seul et vulnérable. C'est super si les taux d'allaitement augmentent, mais notre objectif, c'est de réduire le taux d'abandon et le traumatisme des femmes qui ont besoin d'aide pour réussir.
Mais le chemin est encore long. Des appels pour installer des bancs d'allaitement rembourrés dans un parc de Dublin créent la polémique et viennent d'être refusés par la ville.
Motore. Pronto col check. Check.
Quanta prima.
Che venga, che venga, che passi. Sacra corona.
Le rideau est retombé sur le Festival de Cannes, mais il n'y a pas de saison pour aimer le cinéma. Et c'est une bonne nouvelle, Clémence Pénard, le public est de retour en salle en Europe.
Et oui, ça nous avait manqué le pop-corn. En 2022, le nombre d'entrées vendues a bondi de 60% dans l'Union européenne et au Royaume-Uni par rapport à 2021. Voilà les conclusions du dernier rapport de l'Observatoire européen de l'audiovisuel. Bon, on est encore bien loin du milliard d'entrées réalisées en 2019, les pays européens n'ont pas tous retrouvé le chemin des salles. En fait, ce sont surtout la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne qui ont fait leur remontada. Les chiffres sont tout de même encourageants. Outre Rhin, il y a même eu plus d'entrées enregistrées au premier trimestre 2023 qu'avant la pandémie. Ce retour en salle profite aussi bien aux blockbusters qu'aux films d'auteurs. Et tout ça grâce aux jeunes. On aurait donc tort de croire que la génération Z préfère le streaming. Le rapport dit même qu'il faudrait trouver un moyen d'attirer en salle les tranches d'âge plus âgées. Mais si les jeunes ont fait un retour en force au cinéma, c'est aussi parce que le pass Cinéville s'est généralisé en Europe. C'est une carte mensuelle qui coûte 18 euros au moins de 26 ans et avec laquelle on peut aller voir tous les films que l'on veut dans des salles indépendantes. Elle est disponible en Allemagne, en Autriche, en Belgique et aux Pays-Bas. C'est là-bas que l'initiative est née. Et d'après les données néerlandaises, les détenteurs et détenteurs d'un pass Cinéville vont 30 fois plus au ciné que les autres. Vous allez me dire que cette carte n'existe pas en France. Alors certes, mais ici, les grands cinémas ont déjà tous quasiment des offres équivalentes.
Merci Clémence Pénard. On retrouve votre bonne nouvelle en partenariat avec Enter, la vidéo sur leurs réseaux sociaux.
Start remembering what you hear.
Well, hi out there. Welcome to...
And now, you're there. It's a lot of fun to do.
Vendredi, c'est la musique avec Vincent Théval. Bonjour Vincent.
Bonjour Juliette, bonjour à tous.
De la musique à la gamme chromatique aujourd'hui.
Ah oui. Un peu plus de 15 ans après sa formation à Nimègue, à l'est des Pays-Bas, le groupe De Stadt publie aujourd'hui Red, Yellow, Blue, un sixième album studio pas tout à fait comme les autres, puisqu'il réunit trois collections de chansons d'abord mises en ligne en 2022 sur les plateformes de streaming. Le chanteur et leader du groupe, Tore Florim, y manifeste à nouveau son goût pour le rock, le funk, voire le hip-hop. Mais surtout, il expérimente une écriture basée sur les couleurs primaires. Il y a les chansons jaunes, qui sont plus enjouées, les rouges, plus sombres et agressives, et les chansons bleues, plus introspectives. Et j'ai choisi aujourd'hui de piocher dans le jaune, avec Danger.
De De Stadt avec Danger dans Accent d'Europe. Accent d'Europe à la réalisation, Françoise Grelot. Vous retrouvez le podcast de l'émission sur l'appli Pure Radio, sur RFI.fr et sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt.